Cher bien-aimé, c'est avec joie qu'aujourd'hui nous allons parler de notre relation avec Dieu et nous allons parler du rêve spirituel. J'ai souvent posé cette question à plusieurs personnes à travers le monde. Quel est votre rêve spirituel? Plusieurs personnes pensent que la question que nous venons de poser est liée à la pratique d'une religion. La question ne concerne pas l'adhésion à une religion, ni même au royaume de Dieu. En outre, l'idée que l'on puisse avoir un rêve spirituel paraît étrange à plusieurs personnes. En effet, les rêves que nous avons habitude de nous faire sont presque toujours liés aux réalités physiques et matérielles. La plupart des personnes qui essayent de répondre à la question du rêve spirituel donnent deux réponses. Certaines personnes ont pour rêve spirituel le désir d'approfondir leur relation personnelle avec Dieu. D'autres veulent servir leur prochain davantage. Le Seigneur Jésus-Christ enseigne que nous trouvons la signification profonde de notre vie quand nous développons une relation profonde avec Dieu. Et la relation profonde que nous développons avec Dieu se prolonge dans notre service en faveur du prochain. Un docteur de la loi posa la question suivante au Seigneur Jésus-Christ. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit « Voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée, et de toute ta force. » Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Marc chapitre 12, versets 28 à 31. C'est Dieu qui met en chacun de nous le profond désir de le chercher, afin de trouver notre satisfaction en lui et ainsi être en mesure de servir notre prochain. Plusieurs personnes ne veulent pas chercher Dieu. Elles veulent s'engager dans les œuvres sociales, mais ne veulent pas confier la direction de leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Ils ne veulent pas lui soumettre leur vie. Mais sans la soumission au Seigneur Jésus-Christ, il est impossible que nous puissions trouver la vraie paix et satisfaction pour nos âmes. Quel est alors le problème? Aimer Dieu et le prochain n'est pas facile. Tous nous sommes nés dans la rébellion et le péché, comme nous le dit Psaume 51:5. Tous, nous voulons vivre selon notre propre volonté. Nous voulons être au contrôle de notre vie. Notre tendance naturelle à la rébellion a commencé avec nos premiers parents après leur désobéissance vis-à-vis de Dieu. Genèse chapitre 3. L'apôtre Paul écrit dans Romains chapitre 3, versets 9 à 12. « Quoi donc? Sommes-nous donc plus excellents? Nullement. » Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'emprise du péché. Selon ce qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Notre situation se complique davantage parce que nous ne luttons pas seulement contre nous-mêmes, mais nous luttons aussi et surtout contre Satan, un adversaire malin qui ne cesse de nous tenter. L'apôtre Paul écrit, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. » 2 Corinthiens chapitre 4, 4. Abandonnés à nous-mêmes, nous sommes perdus. Certes, nous voulons approfondir notre relation avec Dieu, mais le péché en nous a empoisonné notre nature et nous rend ennemis des dieux et des autres. Et le diable ne cesse de nous aveugler afin que nous ne puissions pas voir la gloire et la grâce de Dieu envers nous. De nous-mêmes, nous sommes incapables d'aimer Dieu et d'aimer les autres. La bonne nouvelle que Jésus-Christ nous apporte est qu'à travers sa mort et sa résurrection, Dieu nous devient favorable. La puissance de la vie de Jésus renverse la puissance de Satan et ses œuvres contre nous. En Christ, Dieu nous accorde le pardon de tous nos péchés. C'est le pardon de Dieu en Christ qui nous libère de tout désir de contrôler notre vie et la vie des autres, comme affirmé avant. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. C'est Dieu qui nous sauve quand il fait luire sa grâce sur nous en Christ. La plénitude de l'amour de Dieu pour nous nous rend capables de manifester ce même amour pour les autres. Nous aimons les autres de l'amour abondant de Dieu qui coule de notre être saturé, plutôt saturé de sa présence. Peut-être il est difficile pour toi de croire que Dieu t'aime réellement. Peut-être tes péchés sont si grands que tu ne peux concevoir la possibilité et la réalité de l'amour et du pardon de Dieu en ta faveur. Mais l'amour de Dieu triomphe de tous nos péchés, aussi grands et graves soient-ils. Ce qui est merveilleux, c'est le fait que Dieu produit en nous le fruit de la nouvelle vie en Christ. Même si tu as grandi comme un chrétien de non seulement, même si ta vie chrétienne n'est qu'une vie traditionnelle et légaliste, sans vraie communion avec le Christ, Dieu veut toujours t'aider à expérimenter une vraie relation avec son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu commence avec toi, où tu te trouves en ce moment. Il va te transformer, il va renouveler ta vie intérieure. Tes proches remarqueront le changement profond que Dieu produira en toi. Dieu te donnera l'autorité sur le diable afin que tu vives dans la victoire dans ta vie de tous les jours. Et tout cela, Dieu l'accomplit dans ta vie par sa grâce. Comment est-ce que nous recevons la grâce de Dieu? Dieu est parfait dans son être, dans ce qu'il est. Sa nature parfaite ne tolère pas notre péché. Quand nous vivons dans le péché, quand nous désobéissons à sa volonté, Dieu ne peut nous accueillir devant sa présence. Sa nature sainte l'en empêche, autrement nous serions détruits par sa sainteté. Il existe donc entre Dieu et nous un mur de séparation à cause de notre péché. Mais dans son amour et par sa grâce, Dieu a de lui-même détruit ce mur de séparation entre lui et nous. Il l'a fait dans sa grâce. En envoyant son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, mourir sur la croix à notre place, en mourant pour nous, le Seigneur Jésus-Christ a pris sur lui notre punition. Il a ainsi enlevé notre péché et nous a ouvert la présence de Dieu. Parce que Jésus était totalement humain comme nous et totalement divin comme Dieu, son sacrifice a satisfait aux exigences de la sainteté de Dieu en Christ. Nous sommes dorénavant sanctifiés et pardonnés. Dieu ne compte plus notre péché contre nous parce qu'il les a tous crucifiés en Christ. Nous sommes réellement réconciliés avec Dieu. Voici ce que la Bible dit dans Romains chapitre 5, versets 8 à 9. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Romains 5, 8 à 9. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver le pécheur dont je suis le premier. 1 Timothée 1, 15. Il est naturel pour nous de lutter contre l'attrait du péché. La chair en nous nous pousse à reprendre la direction de notre vie. Mais plus nous nous soumettons à Dieu, plus sa puissance transformatrice va agir en nous et nous pousser à vivre sous la puissance du Saint-Esprit que sous la puissance de la chair. Ce long processus spirituel s'appelle la sanctification. La sanctification, c'est le processus par lequel le Saint-Esprit crée en nous le désir et la volonté d'obéir à Dieu dans notre vie et de chaque jour. La sanctification ne signifie pas la perfection totale. La sanctification, au contraire, signifie la perfection progressive, petit à petit. Nous laissons le Saint-Esprit nous transformer en l'image de notre Seigneur Jésus-Christ et le progrès de notre sanctification se remarque par l'amour que nous avons pour Dieu et pour notre prochain. Certes, la grâce de Dieu est disponible à tout le monde par la foi en Christ. Mais tous n'ont pas encore reçu cette grâce divine. Pour recevoir la grâce de Dieu, nous devons nous-mêmes nous décider. Dieu ne nous force pas à accepter sa grâce. Dieu nous laisse la liberté de recevoir ou de rejeter sa grâce. Pour recevoir la grâce de Dieu, Nous devons accepter l'invitation que Dieu nous fait, celle de croire en Jésus-Christ, de lui confier la direction de notre vie. La conversion à Jésus-Christ ne dépend pas d'une formule magique. Elle dépend uniquement de notre décision d'ouvrir notre cœur au Seigneur Jésus-Christ et d'accepter le fait que c'est lui seul qui nous aime et veut nous pardonner nos péchés et renouveler notre vie. La foi en Christ, en sa mort et en sa résurrection, à notre faveur, fait entrer la vie nouvelle de Dieu en nous. Elle nous fait naître de nouveau dans la vie de Dieu quand nous acceptons de donner notre vie à Jésus-Christ. La repentance, l'acceptation de nos péchés et la volonté de les abandonner entre les mains de Dieu accompagnent et confirment notre foi en Jésus-Christ. Nous mourons en nous-mêmes quand nous abandonnons notre indépendance personnelle et acceptons la vie nouvelle que Dieu nous donne en Christ. Nous mourons en nous-mêmes quand nous laissons le commandement de notre vie entre les mains de Jésus-Christ. Oui. Nous naissons de nouveau par la puissance de l'Esprit de Dieu. Certes, notre salut ne dépend pas de formules que nous réciterions pour inviter le Christ dans notre cœur, mais pour des raisons pratiques, il est toujours bien de suivre le processus du salut étape par étape pour en bien saisir la signification et la portée. Même si tu es déjà converti, il est bien que tu puisses lire les étapes suivantes avec un cœur réceptif, afin que tu puisses être en mesure d'expliquer aux autres le processus du salut. Et Dieu voulant, nous allons développer cela dans notre émission prochaine. Que Dieu vous bénisse. Amen.